faudrait regarder maintenant comment cette métaphysique de l'être en acte et en puissance a été utilisée par les théologiens. Les théologiens qui partent de la foi utilisent la philosophie stinfaite. Donc je ne me pose pas ici la question comment ça s'est fait, est-ce que c'est légitime ou pas. De fait, ça s'est fait très très vite. Hein. Et ça a commencé par Philon, donc un théologien juif, puis les pères de l'Église, puis nous trouvons dans le monde arabe. Et c'est là où je m'arrête un instant, la manière dont ils ont utilisé la philosophie de Platon, la philosophie d'Aristote et le néoplatonisme. Alors, ce qui est intéressant à noter, parce que je crois que ça a joué un très grand rôle, c'est la position d'Avicenne, de fait, parce qu'elle a joué un rôle important sur Albert le Grand, sur saint Thomas, sur Henri de Gand. Et il faut bien voir là l'influence que ça a pu jouer. Eh bien, quand on regarde dans la philosophie d'Avicenne la manière dont l'être en acte et l'être en puissance ont été utilisés, on voit que, de fait, l'être en acte et l'être en puissance sont regardés avant tout comme des états et non pas comme un principe. Ça, c'est un problème très difficile, très important. Je vous ai dit hier à propos d'Aristote qu'Aristote se pose la question du ti esti par rapport à l'acte. Ce qui montre bien qu'Aristote ne reste pas au niveau des modes. Autrement, il ne se poserait pas la question du ti esti. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'acte ? Et quand il pose la question du ti esti, il veut saisir ce qu'il y a de plus profond dans l'acte. Quelle est la détermination la plus fondamentale de l'acte ? Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait premier dans l'acte ? C'est bien la question du tiesti. Qu'est-ce que c'est ? Tandis qu'au contraire, quand je reste dans une métaphysique de l'acte et de la puissance qui reste au niveau des modes, la manière d'être en acte, la manière d'être en puissance, ce n'est pas le tiesti de l'acte. Alors qu'Aristote l'ait atteint ou l'ait pas atteint, ça c'est une autre question, n'est-ce pas ? Je crois qu'il l'a atteint, mais je crois qu'il l'a atteint comme toujours, quand il atteint un principe, c'est dit rapidement, et c'est pas commode à expliciter et interpréter. Ce qui est sûr, c'est que la théologie d'Avicenne, de fait, reste toujours au niveau de l'être en acte et de l'être en puissance. Ça, je crois qu'on peut le dire. Chez Albert le Grand, on retrouve quelque chose de semblable. La manière dont Albert le Grand assume le point de vue de la philosophie de l'être en acte et de l'être en puissance, il l'assume comme deux modalités de l'être. Chez saint Thomas, c'est beaucoup plus complexe. Alors, je ne vais pas m'arrêter dans saint Thomas, puisque parmi vous, il y en a un qui l'étudie. Alors on pourra lui laisser un cours de faire la manière dont saint Thomas assume la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance. Je crois qu'il y a chez saint Thomas un souci très net de compréhension de la métaphysique d'Aristote, mais d'une compréhension de la métaphysique d'Aristote qui est toujours en vue de sa théologie. Mais c'est en ce sens-là qu'on peut dire que saint Thomas, au sens strict, n'est pas philosophe. Il sait ce que c'est que la philosophie. Et il sait que la philosophie est une sagesse. Ça, c'est bien évident. Et pour lui, la philosophie d'Aristote est une sagesse. Mais saint Thomas n'a jamais eu le souci, ça je crois qu'on peut le dire au point de vue de l'intention. C'était l'époque. de repenser la philosophie d'Aristote pour elle-même. Il repense la philosophie d'Aristote en vue de sa théologie et pour sa théologie. Alors, c'est assez subtil, vous comprenez, parce que vous allez me dire, c'est un procédé d'intention. Or, un procédé d'intention, c'est toujours très très difficile à préciser. On ne peut regarder que les textes. Mais de fait, on voit que dans les commentaires de saint Thomas par rapport à Aristote, saint Thomas se fait toujours le commentateur. Il essaie de comprendre Aristote et à certaines petites remarques, on voit bien la manière dont il corrige Aristote. Il corrige Aristote presque toujours en tant que théologien. Donc ce qui est l'indice que de fait il y a Aristote en vue de sa théologie. Et quand vous regardez saint Thomas comme théologien, vous voyez bien qu'il y a l'utilisation d'une métaphysique, ça on ne peut pas nier, mais cette utilisation de la métaphysique n'est plus en vue d'une pensée métaphysique, je vous l'ai dit à propos de Lousia, c'est toujours en vue de sa théologie. Alors c'est la très grosse question qui se pose, comment une philosophie est-elle intégrée dans une théologie? C'est sûrement pas comme un attelage de l'âne et du bœuf. Sûrement pas. C'est-à-dire, c'est sûrement pas comme deux sources juxtaposées. La théologie a une unité, comme science et comme sagesse. Si elle a une unité et qu'elle a cependant deux sources, la source première, c'est la foi, la source seconde, c'est la philosophie, il faut comprendre comment la foi assume la philosophie et en l'assumant, la transforme. Et c'est au fond là où le point est très difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprendre à partir de la somme théologique de saint Thomas une véritable métaphysique pour elle-même. On peut comprendre saint Thomas en tant que théologien et saisir à partir de ce théologien le contenu d'une pensée métaphysique et qui est souvent saisie au niveau critique des rationes. C'est ça qui est au fond très très difficile. Vous voyez, au fond, tout problème consiste à saisir la différence qui existe entre le principe propre, l'être en acte, et saisi comme fin. Fin de ce qui est, en tant qu'être. Donc, télos, principe propre, l'être en acte. C'est saisi comme un principe. C'est pour ça qu'Aristote se pose la question de ce tiesti de l'acte. Il veut savoir ce que c'est. Bon. Et la manière dont saint Thomas l'utilise au point de vue théologique, où on arrive à trouver les rationes, les deux niveaux qu'il faut saisir, le niveau des rationes et le niveau du principe. Ce n'est pas le même niveau, au point de vue de l'intelligibilité. Les rationes sont au niveau critique, et ici je suis au niveau philosophie première, métaphysique. Et c'est, je crois, ce passage entre les deux qui est très difficile à bien saisir. Les rationes peuvent être immédiatement assumées, ou plus exactement, quand le théologien s'est servi de sa métaphysique, nous trouvons ces rationes. Elles sont présentes. Saint Thomas peut appeler « ratio actus ». Et quand saint Thomas parle de ratio actus, ça prouve que saint Thomas n'est pas resté au niveau du mode. Il a saisi autre chose. Je peux parler de ratio actus à partir d'un principe propre. Mais je ne peux pas parler de ratio actus à partir simplement d'un mode. Donc, ce qui prouve que saint Thomas a bien saisi qu'il y avait quelque chose au point de vue métaphysique. Au point de vue métaphysique, d'un principe propre qui est l'être en acte. Mais ce n'est jamais explicité. Là, il y a donc un grand problème, hein, un grand tournant au point de vue philosophique qui est particulièrement difficile. Alors, je ne m'arrête pas, ce serait très difficile à bien saisir, très intéressant, il ne faut pas dire du tout que ce n'est pas intéressant. Il y a un autre aspect très important à souligner chez saint Thomas, que de fait, on a mis très en lumière ces dernières années, c'est le point de vue de l'essai. Un point sensible de Gilson. C'est un point sensible de Fabreau. Donc c'est intéressant de voir ça. Si c'est un point sensible de Fabreau et de Gilson, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à saisir là. Gilson, aussi bien que Fabreau, disent l'un et l'autre que la métaphysique de saint Thomas, il ne dit pas saint Thomas comme théologien, mais la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique de l'essai. Dès que vous lisez Gilson, dès que vous lisez Fabreau, vous trouvez tout de suite ça. Et après eux, ça s'est répété. Et au fond, c'est, je crois, eux qui l'ont dit en premier lieu. La métaphysique de saint Thomas, c'est une métaphysique de l'essai, tandis que la métaphysique d'Aristote est une métaphysique de l'essence. Oui, ça c'est facile à dire, c'est vrai. Ça prouve qu'ils n'ont pas regardé beaucoup Aristote pour dire ça. Parce que encore quand ils disent que la métaphysique d'Aristote c'est la métaphysique de nousia, ça va un peu mieux. Mais c'est pas la métaphysique de l'essence en opposant essence et essai, parce que nousia contient le point de vue de l'essai. Contient implicitement, mais en acte. Donc il n'y a pas opposition entre ousia et essai. Donc c'est la position qu'ils ont pris en disant que la métaphysique de saint Thomas est une métaphysique de l'essai. C'est sûr que quand je regarde les textes de saint Thomas, je vois que l'essai prend une importance extraordinaire. L'essai traduisait toujours « acte d'être ». Mais vous savez que l'essai a de multiples significations dans saint Thomas, ce qui fait que le problème est très corsé et qui n'est pas commode du tout à saisir. Donc, parce que saint Thomas peut très bien formaliser l'essai et regarder l'essai comme la forme des formes, comme la forme la plus actuelle. Alors ça devient très complexe. Il peut regarder l'essai aussi comme l'acte d'être. Saint Thomas se sert de l'essai dans son regard sur Dieu, l'ipsum esse subsistens. Il est l'essai subsistant. On retrouve l'essai pour la grande théologie de la création. L'acte propre du Créateur, c'est de communiquer l'essai. On retrouve l'essai par rapport à toute la grande vision qu'il a sur l'âme. L'âme subsiste. Et donc, elle a l'essai et elle le communique au corps. C'est pas commode à bien comprendre. Donc, c'est très vrai qu'on retrouve chez saint Thomas constamment le point de vue de l'essai. Si j'ai un regard, donc, d'extension, uniquement en regardant la lettre, je dirais facilement que la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique de l'essai. Il faut reconnaître ce qu'il y a de juste. C'est très vrai. Si je regarde de l'extérieur, je vois qu'en effet, l'essai prend une importance énorme. L'essai traduit le to einan. Ça prend une importance énorme dans saint Thomas. C'est très vrai. Et Gilson, en opposition avec un certain thomisme, manière Garrigou-Lagrange, dit que le thomisme de Garrigou-Lagrange, c'est le thomisme de l'essence, tandis que le vrai saint Thomas, c'est le thomisme de l'essai. Et on entre dans les batailles des thomistes, là. et batailles qui ont été très fortes, très violentes à un moment donné. Et Fabreau continue dans le même sens. Alors, toute la question qui se pose, c'est là où, au plan philosophique, toute la question qui se pose, c'est de savoir si vraiment il y a une nouvelle métaphysique de l'essai. Comment saint Thomas regarde-t-il l'essai ? L'acte d'être. Chaque fois qu'il veut définir l'essai, il le définit par l'acte. Ça ne se définit pas l'essai, mais chaque fois qu'il veut expliciter ce que c'est que l'essai, il prend toujours le point de vue de l'acte. Tout le temps. Ça, on ne peut pas le nier. Ce qui montre que dans la pensée de saint Thomas, l'acte est antérieur à l'essai. Autrement, j'expliciterai pas le point de vue de l'essai par l'acte. L'acte est donc antérieur à l'essai. Donc, on devrait dire métaphysique de l'acte, parce qu'on ne prend jamais une métaphysique au niveau de la conclusion. On devrait donc dire, si c'est la métaphysique de l'essai, c'est donc la métaphysique de l'acte. Si c'est la métaphysique de l'acte, est-ce que la conception de l'acte de saint Thomas est-elle distincte de la conception de l'acte d'Aristote ? Ce que je crois que, de fait, c'est la même conception de l'acte, mais c'est un usage de l'acte tout à fait différent. C'est la question de l'usage et la question du tiesti. La question de savoir ce qu'est l'acte et l'usage dont on fait de l'acte. Alors, c'est bien évident que l'usage de la philosophie, de la métaphysique de l'acte chez saint Thomas est tout à fait différent que celui d'Aristote. Ça, tout à fait d'accord. Parce que saint Thomas l'utilise en théologien, et c'est pour ça que l'essai leur prend une telle importance. Au fond, la métaphysique de l'essai nous montre un usage de la métaphysique de l'acte très important dans saint Thomas. Mais je ne crois pas qu'il y a une nouvelle métaphysique. C'était toujours la question que je posais à Gilson et je n'ai jamais eu de réponse. S'il y a une nouvelle métaphysique, il doit donc avoir un nouveau principe. Or, nulle part vous trouvez un nouveau principe métaphysique dans saint Thomas qui n'a pas été dit dans Aristote. Donc je ne peux pas dire nouvelle métaphysique. Parce que donc, pour eux, il y a une nouvelle métaphysique. Il y a une métaphysique chez saint Thomas qui est différente de celle d'Aristote, qui est un petit cocktail entre Aristote et Plotin, et le néoplatonisme. Alors, si c'est un cocktail Aristote et le néoplatonisme, je ne sais pas ce que peut être cette nouvelle métaphysique. Et d'autre part, je ne vois pas qu'il y a un nouveau principe. Or, saint Thomas nous dit toujours qu'une science se spécifie par ses principes propres. Si donc il y a une nouvelle métaphysique dont saint Thomas est conscient, autrement il n'y aurait pas de nouvelle métaphysique, il faudrait qu'il y ait un nouveau principe. Or, de fait, il n'y a aucun nouveau principe. Et Gilson ne l'a jamais dit. Gilson a simplement affirmé que l'essai prend dans la métaphysique de saint Thomas une importance toute nouvelle. Je crois qu'il y a une explicitation nouvelle. Voilà ce qu'on peut dire. Et ceci, c'est normal, puisqu'on est en face d'une théologie. Donc, il y a une explicitation nouvelle, un usage nouveau de la métaphysique de l'acte. Mais je ne crois pas que la conception de l'acte chez Aristote et chez saint Thomas soit différente. Parce que je ne crois pas qu'il y ait, de fait, un nouveau principe. Donc, je pose là le problème. Et je souligne qu'en effet, il y a tout un aspect très important dans saint Thomas à propos de l'essai. Je crois où Gilson aurait pu montrer une explicitation beaucoup plus importante encore que l'essai chez saint Thomas. C'est le point de vue du bien. Je dis ça, c'est parce que ça regarde le point de vue de la métaphysique de l'être. Ça regarde la métaphysique de l'acte. C'est beaucoup plus à l'égard du bien que nous trouvons, je ne dis pas une nouvelle métaphysique, mais une explicitation beaucoup plus grande encore que par rapport à l'essai. Parce que le bien chez saint Thomas va jouer dans sa théologie un rôle très important. C'est assez normal. Tandis que le bien chez Aristote, en métaphysique, Nous savons bien, c'est un problème très très difficile, comment Aristote regarde dans le livre Theta, dans la lumière de l'acte, le point de vue du bien. Tandis que pour saint Thomas, il y a sûrement quelque chose d'assez nouveau, et même de nouveau par rapport à Albert le Grand. Puisque pour saint Thomas, la ratio boni, la raison de bien, fait partie des transcendentaux. Pour Albert le Grand, le bien fait partie des transcendentaux par rapport aux théologiens, par rapport aux saints. Donc c'est l'influence augustinienne. Tandis qu'au contraire, pour saint Thomas, la ratio boni est convertible avec la ratio entis. Et donc il y a chez saint Thomas toute une explicitation du bien qui va beaucoup plus loin que chez Aristote. Et je crois que ce serait encore plus vrai, vous voyez, de dire il y a une nouvelle métaphysique dans saint Thomas parce qu'il y a une métaphysique du bien. Et c'est vrai, la métaphysique de l'être et la métaphysique du bien sont une en saint Thomas. Et ça, c'est très nouveau. C'est là où on voit comment saint Thomas, en théologien, va assumer tout l'apport néoplatonicien. C'est par le point de vue du bien, c'est pas par le point de vue de l'essai. C'est par le point de vue du bien. Parce que c'est vraiment le point de vue du bien qui caractérise le néoplatonisme. Le néoplatonisme met le bien au-dessus de l'être. Alors, mettant le bien au-dessus de l'être, on peut dire que la métaphysique néoplatonicienne est une métaphysique du bien. Elle est une métaphysique de l'un et du bien. Et c'est par rapport au bien que nous voyons comment saint Thomas va intégrer des éléments néoplatoniciens, entre autres tout le point de vue du bien. Il y a un autre aspect sous lequel vous pouvez saisir là comment saint Thomas assume d'une certaine manière tout ce point de vue du bien, beaucoup plus que ne fait Aristote, c'est lorsque saint Thomas se pose la question, d'un point de vue très très curieux, quand saint Thomas se pose la question de la division du bien. Je vous ai toujours dit que c'est à l'égard des divisions qu'on saisit le mieux la pénétration d'un auteur, d'un philosophe, la manière dont il divise, très très important. Eh bien, il y a une division du bien qui est classique depuis les pythagoriciens. Le bien honnête, le bien utile, le bien au point de vue de la jouissance. Bon, vous trouvez cette distinction dans Aristote, dans l'éthique, pas dans la métaphysique. Que deviendrait cette division dans le livre Theta, n'est-ce pas? Cette division du bien honnête, utile, jouissance. C'est comme ça qu'Aristote distingue dans l'éthique à propos de l'amitié, les trois espèces d'amitié. Saint Thomas reprend cette distinction dans la Somme et nous dit que cette division n'est pas une division au niveau du bien humain, mais du bien tout court. Alors là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est très intéressant puisque c'est au niveau de la division. Donc c'est quelque chose de très précis. Saint Thomas a l'audace de dire que la division du bien comme telle, donc de la ratio boni, se divise en bien honnête, utile et agréable. Les trois. Et là, il donne, là, il y a un effort extraordinaire de pénétration dans la ratio boni. Il donne cette question. C'est dans la Somme, question 5, n'est-ce pas, sur la question du bien. Le dernier article, je ne sais plus c'est lequel, vous trouverez ça facilement dans la Somme. Bon, c'est la division classique qui était au niveau éthique, il la transporte au niveau métaphysique, au niveau théologique. Donc, assumé au niveau de la ratio boni. Bon, ces quelques petites remarques, je crois, nous aident à mieux comprendre comment il y a un gros problème, et très intéressant, mais difficile, voir comment saint Thomas, assumant la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, l'assumant au niveau théologique, développe certains aspects qu'Aristote n'avait absolument pas développés, sans doute sous l'influence du néoplatonisme, quand il s'agit du bien, sûrement, et quand il s'agit de l'essai, c'est parce qu'il est théologien. Alors le problème de l'essai pose un très gros problème par rapport à la création. Il faudrait regarder maintenant comment vous pourriez poser le même problème à propos de la participation de la causalité, parce que ce serait intéressant, et à propos de la finalité, mais je le laisse tomber. Il faudrait regarder comment, après saint Thomas, très vite après saint Thomas, et alors ceci a une très grosse importance, nous trouvons chez les théologiens qui assument la métaphysique de l'acte et de l'être en acte et d'être en puissance, nous trouvons un primat du possible. Je dis ça, c'est parce que c'est quelque chose qui va se retrouver dans toute la philosophie, ça. Lorsque dans sa somme de logique, il traite des divisions de l'être, Occam, nous trouvons toujours Occam, hein. Occam, c'est une pierre qui vit, hein. Alors il faut bien le trouver, il faut bien le voir, le lieu exact où ça se situe. Donc il traite des divisions de l'être. Occam rappelle la division aristotélicienne de l'être en acte et de l'être en puissance, mais il en donne une interprétation nouvelle. Alors je vous lis ce texte dans sa somme logique, premier livre, chapitre 38. L'être se divise en être en puissance et en être en acte. Il ne faut pas entendre par là que quelque chose qui n'existe pas réellement, mais peut exister, soit véritablement de l'être, et que quelque chose d'autre qui existe réellement soit aussi de l'être. Mais Aristote, en divisant au cinquième livre de la métaphysique l'être en puissance et l'être en acte, veut dire intendit, oui. Donc, l'intention d'Aristote veut dire que le non-être est attribué à quelque chose par l'intermédiaire du verbe être dans une proposition purement de inesse, non équivalente à une proposition de possibili. Comme lorsqu'on dit, très curieux, l'interprétation de la métaphysique par la logique. Vous voyez, le legetai, si vous voulez. La manière de dire. On ne regarde plus l'être en acte et l'être en puissance, mais alors par le legetai, par le point de vue logique, on va interpréter cette division de l'être en acte et de l'être en puissance. Comme lorsqu'on dit « Socrate est un être, la blancheur est un être » ou au contraire que le nom « être » n'est attribué que dans une proposition des possibili ou équivalente à une proposition des possibili. Comme lorsqu'on dit « L'antéchrist peut être un être ». C'est toujours l'antéchrist qui arrive, hein. On est dans les théologiens, il ne faut pas l'oublier. Alors l'antéchrist les hante, n'est-ce pas? On voit très bien des possibilités, hein, la possibilité de l'antéchrist. Alors l'antéchrist peut être un être, ou l'antéchrist est un être en puissance, et ainsi de suite. C'est pourquoi il veut, au même endroit, que l'être puisse se dire selon la puissance et selon l'acte. Potestate et actu, comme sachant et se reposant, et cependant rien n'est sachant, connaissant, ni se reposant, s'il est actuellement sachant et se reposant. Vous voyez comme c'est curieux. On retrouve l'interprétation de deux états. C'est ça qu'il faut saisir. Donc, de nouveau, si vous voulez, la métaphysique de l'être et de l'acte va se replier sur deux manières d'être. C'est ça qui m'intéresse ici. Et ceci se fait par une interprétation logique. On ne regarde plus, alors ça c'est, ce n'est plus au cadre, on ne regarde plus la division de l'être comme telle, mais celle qui concerne l'attribution de l'être. On passe du domaine métaphysique à celui de la logique. De plus, Occam ne saisit plus cette division comme une distinction, mais comme deux états de fait. C'est pourquoi il ne peut saisir la distinction que fait Aristote entre celui qui sait et celui qui se repose. Rien n'est sachant, donc rien n'est connaissant, ni reposant, s'il n'est actuellement sachant ou se reposant. D'ailleurs, si l'on regarde son commentaire du Périrménéas, on voit comment Occam définit le possible et dit possible ce qui est en acte. C'est merveilleux, ça. Ça ne peut pas être mieux. Illud connaisse in actu. Le possible, c'est ce qui est en acte. Vous voyez, alors ça, c'est très curieux. C'est un point de vue très important. Vous voyez, c'est le passage de considérer l'être possible comme premier. C'est l'être possible. Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Comment la transformation du regard métaphysique en regard logique fait que le possible passe avant l'être en acte. Ceci, c'est la transformation logique. Vous voyez, c'est l'estomac du logicien qui, lorsqu'il transforme et qu'il prend un aliment métaphysique, le transforme à sa manière et fait que l'être en puissance, l'être possible, devient premier. Vous n'avez qu'à réfléchir ce que c'est que l'être de raison. L'être de raison est essentiellement un être possible. Donc, la logique pense l'être possible en premier lieu. Et l'être en acte, c'est second. Pas premier. L'universel. Nous le verrons quand on fera un peu de logique. Pour ceux qui feront de la logique et ceux qui n'en ont pas encore fait, le verront à ce moment-là. Et puis ceux qui en ont déjà fait, ils n'ont qu'à se rappeler ce que c'est que l'universel. L'universel, c'est un être possible. C'est un être de raison. C'est pas un être en acte. Vous êtes jamais heurté à l'être universel. Il serait cassé la tête. L'être possible, l'être universel, c'est un être possible. C'est un être qui n'existe que dans ma pensée. Mais il est possible dans ma pensée et il existe dans ma pensée. Il existe en moi, l'être possible, mais il n'existe pas dans le réel. Il a un fondement réel, mais il n'existe pas dans le réel. Il n'existe que dans ma pensée. Alors, puisque je pars de ma pensée en premier lieu, le possible est premier. Vous voyez, là c'est très intéressant de voir que si je mets la logique avant la métaphysique, ou plus exactement, si la logique remplace la métaphysique, l'être devient en premier lieu l'être possible. Si la connaissance artistique passe avant la métaphysique, l'être possible est premier. En logique et en art, l'être possible est premier. Pourquoi ? Parce que dans la connaissance artistique, qu'est-ce qui est premier ? L'inspiration. L'inspiration porte sur des êtres possibles, sur un projet. Toute inspiration porte sur un possible. Et c'est à partir de cet être possible que je découvre le nécessaire. Je passe de l'inspiration à un choix créateur, une idée que j'ai choisie, un projet que j'ai choisi. Un projet, c'est de l'ordre du possible. Et dans l'ordre de la connaissance artistique, le projet est premier. La réalisation qui est l'œuvre, elle est seconde. Elle est mesurée par le possible. Vous voyez comment l'acte est mesuré par le possible ? Aussi bien en logique qu'en connaissance artistique. C'est intéressant de voir là le primat du possible en logique et en connaissance artistique pour que justement nous comprenions comment chez Occam, donc chez les théologiens qui ont subi l'influence d'Occam, et ils sont très très nombreux, hein, les théologiens qui ont subi l'influence d'Occam, eh bien chez les théologiens qui ont subi l'influence d'Occam, de fait, l'être possible pour eux est premier. Alors ça aura d'immenses conséquences. C'est pour ça que c'est bon de le saisir à partir de Occam. Je crois que c'est là où on doit le saisir. Donc il faut bien comprendre que pour lui, ce que je continue un tout petit peu à vous lire ce passage parce qu'il est intéressant pour nous. Donc, si on regarde son commentaire du Périhirménéas, on voit comment Occam définit le possible et dit possible ce qui est en acte. Ou d'une autre manière, ce qui n'est pas en acte et cependant peut être en acte. C'est très curieux. Il peut l'être, il est possible. Alors il ne l'est pas, d'une certaine manière, il l'est quand même. Donc il y a cette ambiguïté du possible. Le possible contient l'essai et le non-essai. C'est ça le possible. Il peut exister et il n'existe pas actuellement. Donc il contient le non-essai et l'essai. C'est là la supériorité du possible. Vous comprenez, quand vous divisez l'être, l'essai, l'être en acte, c'est l'essai. L'être qui n'est pas en acte, le non-essai. Eh bien, l'essai et le non-essai sont dominés par le possible. Le dépassement de la contradiction se fait par le possible. Il y a en moi une possibilité de dépasser l'essai et le non-essai parce que le possible contient l'essai et le non-essai. Alors, vous voyez la séduction du possible. Puisque grâce au possible, je suis au-delà de la contradiction. Et la contradiction, c'est la limite fondamentale de ma vie intellectuelle. C'est vrai, puisque je suis obligé d'accepter que ce qui est en tant qu'il est en acte, il n'est pas non-être. Que le non-être n'est pas l'être. Donc, la contradiction exprime comme une limite de ma vie intellectuelle. Je peux très bien la concevoir comme ça. En réalité, ce n'est pas une limite. C'est tout simplement le caractère de l'intelligence relatif à la réalité. Mais je vois que le possible dépasse les deux. Et ça, c'est déjà présent chez Occam. C'est intéressant à saisir, ça. Vous voyez, de comprendre qu'il y a là, chez lui, comme une espèce de séduction, je crois qu'on peut dire ça, c'est une sorte de séduction du dépassement de l'essai du non-essai. Occam explique. Le premier possible s'identifie avec le nécessaire. Ça, c'est tout à fait d'ordre artistique. Le premier possible, idem, il est idem, avec le premier possible s'identifie avec le nécessaire. Le second, avec ce qui n'est ni nécessaire ni impossible. Le troisième est commun à l'un et à l'autre. Donc c'est dans son commentaire sur le Périhirménéas, livre 2, feuillet 126a. C'est quand même très curieux ça, et c'est très intéressant à saisir. Vous voyez cette espèce d'ordre qu'il donne dans le possible. Il y a un premier possible, un second possible, un troisième possible. J'organise le possible. D'autre part, Occam distingue encore ce qui est possible en fonction de l'ordre voulu par Dieu et le possible consistant en l'absence de contradiction. Le dépossibili par rapport à la toute-puissance de Dieu. Alors le possible à ce moment-là s'identifie avec la toute-puissance de Dieu. C'est bien le premier possible, c'est le nécessaire. La toute-puissance de Dieu, vous voyez. Il n'y a rien au-dessus de la toute-puissance de Dieu. Alors vous retrouvez le primat de la dunamis. Oui. C'est qu'au fond, puisque en Dieu, rien n'est au-dessus de sa toute-puissance, tout est coiffé par la toute-puissance de Dieu. Absolument. Tout est possédé et remis à la toute-puissance de Dieu. C'est la toute-puissance de Dieu qui est première. Or, la toute-puissance de Dieu contient tous les possibles. C'est la toute-puissance de Dieu qui me permet de dénommer toute chose possible. C'est donc, au point de vue logique, les deux choses se tiennent. La toute-puissance et le possible. Et nous sommes en face de ce premier possible qui est nécessaire. Affirmer que le possible est ce qui est en acte, voilà qui n'a pas de sens dans la perspective métaphysique. Elle n'a de sens que dans la perspective logique. Le possible a un acte logique, puisqu'il est pensé. Et donc, en tant qu'il est pensé, il est en acte. C'est bien évident. Mais il a donc un acte dans la pensée, mais pas dans le réel. Alors, si je confonds l'acte de la pensée et l'acte de la réalité, si je fais de la logique une métaphysique, je dois donc dire que le possible est un acte. Oui. L'être de raison, il existe dans ma pensée. L'universel, il existe dans ma pensée. Il n'existe pas dans le réel extérieur, mais il existe dans ma pensée. Vous voyez comment la logique prenant le pas sur la métaphysique me permet de dire que le point de vue possible est en acte. Je crois que c'est très important cela parce que ça nous permet de comprendre qu'à partir de ce moment, la métaphysique de l'acte et de la puissance n'est plus saisie. Vous reverriez quelque chose de très analogue dans la théologie de Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse pense, en vertu de la coïncidence des opposés, dépasser la distinction de l'acte et de la puissance, non seulement en Dieu, qui est acte d'une puissance infinie, vous voyez, la puissance est au-dessus. Dieu est la toute-puissance. Dieu est la dunamis absolue. Donc, si Dieu est la dunamis absolue, il est nécessairement au-dessus de la distinction de l'acte de la puissance. Donc, non seulement Dieu qui est acte d'une puissance infinie, acte infini très pur, et donc tout possible absolument. Dieu est tout possible absolument. Toutes les possibilités sont en Dieu. Donc, ce qui glorifie le plus Dieu, c'est de dire qu'il est tous les possibles. C'est la plus grande glorification que je peux faire de Dieu. Ajoutez ça aux glorifications de Dieu. Mais en toute réalité, il y a un dépassement de la distinction de l'acte de la puissance par la coïncidence des opposés. La puissance chez lui n'est plus le possible métaphysique, l'être en puissance, mais la manifestation d'une activité. Nicolas de Cuse dira, par exemple, que plus le feu est puissant en acte, plus vite il fait passer l'inflammable de la puissance à l'acte. Ce qui est bien évident. Donc, vous voyez, la puissance qualifie l'acte. Et donc, si la puissance qualifie l'acte, la puissance est au-dessus de l'acte. Vous retrouvez la dunamis de Platon, c'était très simple. Une fois que vous avez compris la dunamis de Platon, vous la retrouvez ici. C'est tout simplement, dans le néoplatonisme, le primat de la puissance sur l'acte. Et que tout acte est en référence avec la puissance. Tous les pouvoirs, tous les possés individuels sont des reflets du possé infini. Le possé infini, le possible infini qu'est Dieu. Donc tous les possés individuels, tous les possibles individuels sont compris dans ce possible premier. Ce possible premier, il s'identifie avec l'acte, il est acte, puisque de lui proviennent tous les autres actes. Alors voyez, je crois que c'est la réflexion sur le point de vue de la toute-puissance qui nous fait comprendre comment Dieu, étant en premier lieu toute puissance, de lui peuvent provenir tous les possibles. Tous les possibles sont contenus dans cette toute puissance de Dieu. Donc cette toute puissance de Dieu, c'est le possible par excellence. C'est le premier possible nécessaire. C'est le possible qui est. et c'est le possible qui est acte. Alors je vous lis encore ce petit passage de Nicolas de Cuse, parce que c'est intéressant pour la théologie du possible. Nicolas de Cuse, c'est le grand théologien du possible, à la suite d'Occam. Si on veut regarder là, c'est une espèce de théologie de tous les possibles qui dépasse tout. Toutes les réalités, en tant qu'elles sont en acte, existent comme matière, forme et conjonction des deux. Soit par exemple l'humanité, en tant que la nature humaine et la possibilité d'être homme, elle est matière. En tant qu'humanité, elle est forme. Mais en tant qu'homme existant, elle est un composé, une conjonction des deux, de telle sorte que soit un et le même la possibilité d'être homme, la forme et le composé des deux, afin que la substance de la réalité soit une. Et donc, vous voyez, c'est bien le point de vue de la possibilité d'être homme qui permet de comprendre le dépassement de la matière et de la forme. Il y a quelque chose de premier, c'est le point de vue de la possibilité. Est-ce que c'est possibilitaire? C'est vraiment ce qu'il y a d'ultime dans notre regard. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a d'ultime en Dieu, c'est la toute-puissance.